6h sur Europe 1. Très bon réveil.
Je vais régulièrement faire des achats en Allemagne. Certains produits sont à moitié prix.
Il ne vous reste plus que 24 heures pour faire vos courses outre-Rhin si vous habitez en Moselle. À partir de demain, un test Covid négatif sera obligatoire pour entrer en Allemagne. Pas d'exception pour les travailleurs frontaliers. Nicolas Sarkozy sera fixé sur son sort aujourd'hui dans le procès de l'affaire dite des écoutes. Il encourt 4 ans de prison, dont 2 fermes. Et puis le pape François est attendu en Irak à la fin de la semaine. Un voyage historique, c'est la première fois qu'un souverain pontife se rend dans ce pays.
À suivre votre journal des sports et puis on revient ici pour la suite de ce 5-7 à la ferme et on va déguster les produits du terroir. À tout de suite sur Europe 1. D'abord le journal.
Écoutez le monde changer.
Mais tout d'abord, un peu plus d'un mois après son départ de la Maison Blanche, Donald Trump fait son retour dans l'arène politique. L'ancien président américain était hier soir à Orlando, en Floride, pour clore la conférence annuelle des conservateurs. Il a prononcé son premier discours depuis qu'il a quitté ses fonctions. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Alors pas de grande annonce à retenir, mais un Donald Trump fidèle à lui-même.
Oui, comme un retour en campagne. Do you miss me yet? Est-ce que je vous manque déjà? Lance Donald Trump pour commencer son discours d'une heure et demie. L'ancien président s'attaque à la politique de Joe Biden. In just one short month, en un petit mois, on est passé de l'Amérique en premier à l'Amérique en dernier. To America last. Donald Trump s'attribue les mérites de la campagne vaccinale aux États-Unis, mais ne mentionne pas les 512 000 morts du Covid depuis un an. Et surtout, il répète ses allégations mensongères de fraude électorale. Nous avons gagné 2 fois les élections. Mais qui sait, je pourrais même décider de les battre une 3e fois. Devant un public acquis à sa cause qui se lève à plusieurs reprises, Donald Trump s'affirme comme le leader du Parti républicain. Nous avons le Parti républicain, il va être plus fort et plus uni que jamais. Je ne crée pas de nouveau parti. Et il veut faire le ménage, il cite les noms de tous les républicains qui ont voté l'impeachment. Débarrassez-vous d'eux, dit l'ancien président revanchard, car Donald Trump a les chiffres de son côté. D'après un sondage, 55% des participants de cette conférence voteraient pour lui pour représenter les Républicains en 2024.
Alexis Guilleux aux États-Unis pour Europe 1. En France, si vous habitez en Moselle, dès demain, il vous faudra un test Covid négatif de moins de 48 heures pour entrer en Allemagne. Le département est classé zone rouge par Berlin à cause de la forte circulation des variants du virus. Pas d'exception, y compris pour les travailleurs frontaliers. Mélina Fachin.
À Sarreguemines, faire ses courses en Allemagne, c'est une habitude ancrée depuis des décennies. Brigitte est donc bien embêtée par ces nouvelles mesures.
Je ne travaille plus, donc c'est pas une catastrophe, mais je vais régulièrement faire des achats en Allemagne. Tout ce qui est produits d'entretien, produits de beauté, certains produits sont à moitié prix.
Elle fera donc temporairement son shopping côté français. Pour la plupart des Mosellans, effectuer un test PCR ou antigénique tous les 2 jours, c'est bien trop contraignant.
Non, j'y vais plus en Allemagne. Pour l'instant, j'y vais plus. On va pas faire tous les 3 jours un test. Hein. Ça fait mal. Hein. Ils disent que ça fait pas mal, mais ça fait mal. Hein.
Non, on fera les courses en France en dépensant 3 euros de plus. Hein.
On fera les achats locaux.
Ouais. Concernant les travailleurs frontaliers, là, c'est embêtant. Hein. Il faut avoir envie d'aller travailler. Hein.
Et c'est là justement le vrai gros problème. Les 16 000 Mosellans qui passent chaque jour la frontière pour aller travailler, eux aussi devront faire un test tous les 2 jours. Pas de dérogation. Sarreguemines, Mélina Fachin, Europe 1.
Et plus besoin de tests PCR en revanche pour les habitants des Pyrénées-Orientales et de l'Ariège qui reviennent d'Andorre. La dérogation accordée par le gouvernement français ne sera valable que pour les déplacements de moins de 24 heures. Le premier week-end en mode reconfiné s'achève à Dunkerque et son agglomération ainsi que dans les Alpes-Maritimes. Pour sortir, il fallait impérativement se munir de la fameuse attestation. Alors pour éviter ces nouvelles restrictions, certains Azuréens ont préféré fuir vers les départements voisins, comme dans le Var, soumis uniquement au couvre-feu pour l'instant. Frédéric Michel.
On s'est tous sauvés du 06, hein, vu qu'on a un quart de circuler dans le 06.
Comme ce n'y soit, parti passer le week-end dans le Var, cette mère de famille a préféré s'épargner un nouveau confinement en s'évadant à Fréjus, au bord de la mer, avec ses enfants.
Non, c'est pas une occasion qui est trop belle, c'est juste de fuir le problème pour se ressourcer.
Et ouais, ça fait du bien de fuir un peu. Le premier confinement, on l'a fait pendant plus d'un mois et demi, et c'était un peu compliqué. Quoi. En plus de ça, dans les Alpes-Maritimes, on est plus touchés.
La présence d'habitants des Alpes-Maritimes à Fréjus n'étonne pas cette commerçante du bord de plage.
Souvent, de toute façon, c'est des gens qui ont une résidence secondaire dans le coin quand même aussi. Hein. Mais le virus, que ce soit Nice ou que ce soit la France entière, je pense que c'est partout. Donc il faut que tout le monde soit raisonnable. Point barre.
Ce couple de Niçois savoure son bain de soleil varois, retour à Nice lundi après le confinement.
C'est vrai qu'on peut sortir par rapport à, du côté des Alpes-Maritimes, tout en respectant les gestes barrières, on a cette liberté d'aller en extérieur.
La montagne ou le Var, un refuge, mais pour combien de temps? Le préfet des Alpes-Maritimes n'exclut pas de généraliser le confinement à tout le département et le Var pour échanger de stratégie.
Un reportage à Fréjus de Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est. Dans l'actualité, cette mauvaise note pour le gouvernement, 2,5 sur 10 de moyenne à la Convention citoyenne pour le climat. Ses membres ont critiqué sévèrement l'exécutif, estimant qu'il n'avait pas assez pris en compte leurs propositions pour atteindre les objectifs climatiques de la France. C'est aujourd'hui que Nicolas Sarkozy sera fixé sur son sort dans l'affaire Paul Bismuth, dite des écoutes. L'ancien président, jugé en décembre, est poursuivi pour corruption et trafic d'influence. Le parquet national financier requiert 4 ans de prison, dont 2 fermes. Et Jean-Rémy Baudeau, le sujet est autant judiciaire que politique.
Oui, évidemment, car même retraité, Nicolas Sarkozy n'en reste pas moins une figure tutélaire. Les barons de la droite aiment aller le voir. Même des ministres macronistes se pressent pour être reçus dans ses bureaux parisiens. Les affaires, pour l'heure, n'empêchent pas l'ancien président de garder la main sur la droite. Personne n'en parle sur les marchés, explique un député LR. Certains aiment d'ailleurs encore à l'imaginer comme une valeur refuge chez des républicains en mal de leader. Cette idée agace la jeune génération. C'est une icône, pas forcément un candidat, tranche un cadre LR. Sarkozy, une figure devenue encombrante. Personne ne le dit ainsi, mais en coulisses, sans toutefois le souhaiter, certains font des plans. Une possible condamnation de l'ancien chef de l'État pourrait rebattre les cartes à droite. Il se dit que cela disqualifierait durablement Nicolas Sarkozy et marquerait ainsi la fin d'une époque, tournerait une page. D'autant que Nicolas Sarkozy n'en a pas fini avec les prétoires. Quelle que soit la décision rendue aujourd'hui, l'ancien président a d'ores et déjà d'autres rendez-vous au tribunal. Le 17 mars, il comparaîtra dans l'affaire Big Malion, second procès pour les dépenses excessives de sa campagne 2012.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. À l'étranger, Aung San Suu Kyi devant la justice birmane aujourd'hui, au lendemain de la répression la plus meurtrière depuis le coup d'État dans le pays. C'était il y a un mois pile. 18 personnes ont été tuées hier. L'ONU accuse la police et l'armée d'avoir tiré à balles réelles sur des manifestants non violents. À Hong Kong, des centaines de militants pro-démocratie se sont rassemblés devant un tribunal ce matin en soutien à une cinquantaine d'opposants inculpés hier pour subversion. Le pape François se rend en Irak à la fin de la semaine. Un voyage de 3 jours à partir de vendredi. C'est le premier d'un souverain pontife dans l'ancienne Mésopotamie, berceau du christianisme. Et cela suscite une très grande attente pour les habitants. À Erbil, le reportage de notre envoyé spécial Jean-Sébastien Soldaini.
La croix lumineuse de la cathédrale chaldéenne Saint-Joseph surplombe tout un quartier, là où Samir et ses amis se retrouvent pour un dernier thé et commenter l'arrivée du pape François.
Nous sommes chrétiens et nous sommes quittés notre village à cause de notre religion.
Il va recréer le lien entre chrétiens et musulmans, poursuit-il en anglais. Une visite attendue et négociée par le Vatican depuis près de 20 ans, depuis que le projet de Jean-Paul II a été annulé au dernier moment par les autorités locales. Najouan est musulman et il partage l'impatience de son ami.
Le voir ici et entendre sa voix résonner, ce sera extraordinaire. C'est une grande autorité religieuse. Et nous devons à tout prix respecter ce qu'il a à dire au nom de sa religion.
Les déplacements de François se feront sous haute sécurité, la plupart du temps en hélicoptère pour éviter les risques sur la route. Mais les organisateurs insistent sur une chose, le dernier attentat commis contre un pape, c'était à Saint-Pierre de Rome. Erbil, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Et puis la 78e cérémonie des Golden Globes, cette nuit entièrement virtuelle évidemment. Carton plein pour la série The Crown qui obtient les récompenses du meilleur acteur et de la meilleure actrice dans une série dramatique ainsi que le meilleur second rôle féminin. Et puis Sacha Baron Cohen remporte le trophée du meilleur acteur dans une comédie pour Borat 2.
Sophie Echen pour le journal sur Europe 1, il est 6h10.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Les sports avec vous, Cyril de la Morinerie.
La 27e journée de Ligue 1 du football, bien sûr. Lyon a été ralenti hier soir par l'Olympique de Marseille. Match nul, 1-1. Les Lyonnais qui avaient ouvert la marque grâce à Toko et Cambi ont encaissé un but marseillais de Milik. Dans un stade Vélodrome vide, bien sûr, l'OL a tenu le score malgré l'expulsion de Paqueta à 20 minutes de la fin. Au final, ça fait un point, un bon point, Rudy Garcia.
Non, c'est un mauvais point, vu l'entame de match. Après, ça devient un bon point parce que on joue à 10 pendant les 20 dernières minutes. Donc, si on n'a pas gagné, c'est d'abord de notre faute. J'espérais qu'on gagne à 10. Memphis a marqué, mais il était logiquement refusé pour hors-jeu. Mais quand on ne peut pas gagner, c'est bien aussi de ne pas perdre et la course continue, même avec ce point.
L'entraîneur de Lyon, Rudy Garcia, Lyon 3e, compte un point de retard sur le PSG. Lille, qui a concédé le nul contre Strasbourg, un partout, reste en tête. Au total, 4 équipes se tiennent en 4 points en haut du classement, puisque Monaco, vainqueur de Brest 2-0, pointe à la 4e place. Marseille qui attend l'arrivée aujourd'hui de Franck McCourt. Le propriétaire de l'OM doit rencontrer aujourd'hui les représentants des supporters et de la ville. Georges Sampaoli, qui a été nommé entraîneur, va quitter le Brésil dans les prochaines heures et devrait arriver en France d'ici demain. Du foot toujours, mais de l'autre côté de l'océan Atlantique, à Miami. David Beckham voit grand. L'ancienne star du PSG de Manchester, propriétaire de l'Inter Miami, veut accélérer le recrutement. 5 étoiles après Blaise Matuidi, Gonzalo Higuain. David Beckham n'exclut pas de recruter à l'avenir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, s'il vous plaît. Messi qui est régulièrement cité du côté du PSG. Avec le perchiste Renaud Lavillenie et son saut à 6,6 m près de Clermont-Ferrand, c'est l'autre performance sportive du week-end. Il s'agit de ski alpin. Mathieu Fèvre, en état de grâce en Bulgarie, le Niçois de 29 ans, remporte le 2e géant de sa carrière. Mathieu Fèvre est dans la forme de sa vie. Il y a une semaine, il remportait 2 médailles d'or au championnat du monde en Italie. Le skieur français ne cache pas sa joie d'être devenu un ténor de sa discipline.
C'est vraiment génial de pouvoir finir le premier week-end de Coupe du Monde après Cortina, après les titres mondiaux, avec une deuxième place et une victoire. Ça confirme, je dirais, mon état de forme, et ça confirme que je me sens très bien sur mes skis. C'est la première fois que j'arrive à faire ça avec les championnats du monde. Ça fait 4 podiums en 4 courses, dont 3 victoires, donc... Très honnêtement, si on m'avait dit ça en début de saison, je ne l'aurais pas cru.
De son côté, Alexis Pinturo, 3e de ce géant bulgare, conserve la tête du classement de la Coupe du Monde de ski alpin. En bref, le tournoi de tennis de Montpellier, remporté par le Belge David Goffin. Du handball, le PSG écrase le championnat de Star League. Les coéquipiers de Luka Karabatic se sont imposés à Istres et comptent 8 points d'avance sur Montpellier. Enfin, du rugby, la polémique s'amplifie après la multiplication des cas de Covid dans les rangs du 15 de France. La ministre déléguée au sport, Roxana Maracineanu, a confirmé sur Europe 1 qu'elle avait demandé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Mais l'opposant à Bernard Laporte lors de la dernière élection estime qu'il faut aller plus loin sur Europe 1. Florian Grill, membre du comité directeur de la Fédération française de rugby, demande que l'enquête soit menée de façon indépendante. Par ailleurs, toujours sur Europe 1, Roxana Maracineanu ferme la porte à un retour du public lors du prochain match de l'équipe de France de football, prévu le 24 mars prochain contre l'Ukraine.
Voilà, c'est complet, c'était la page des sports signée Cyril de la Morinerie.
C'était le journal des sports, toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques, appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Europe 1. 6h14 sur Europe 1. Europe 1 lance une semaine spéciale. Europe 1 dans le salon des agriculteurs tout au long de la semaine avec différentes émissions. Vous pouvez nous suivre sur europe1.fr. Nous sommes donc en Normandie, au coin du feu, dans le salon d'Isabelle de Radigues qui nous accueille. Et alors je vais vous dire, ici dans le salon, ça commence à sentir le Pont-l'Évêque parce qu'un producteur nous a rejoint, un producteur de jus de pomme également, un maraîcher. On va mettre à l'honneur les produits du terroir ensemble dans un instant. A tout de suite sur Europe 1, 6h14. Un retour ici en Normandie, il est 6h15 sur Europe 1. Nous sommes donc toujours à la ferme de Forges, dans le Pays d'Auge, près de Pont-l'Évêque, justement. C'est pour ça qu'on va parler de fromage avec vous, Jérôme Sprut, qui nous avait rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Je salue également Benoît Charbonneau, qui est un producteur de cidre local. Vous n'êtes pas très loin non plus.
Oui, du village d'à côté, Moyaux. Bonjour à tous.
Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Et je salue Thibaut Dupont, qui est maraîcher également dans la région. Maraîcher.
Bonjour.
Bonjour Thibaut. Bienvenue à tous. Commençons par ce fromage que vous avez déjà posé sur la table. Jérôme Sprut, présentez-nous un petit peu ce produit qui est très emblématique, bien sûr, de la région.
Il s'agit du Pont-l'Évêque, hein, puisqu'il est fabriqué à Saint-Philbert-des-Champs depuis 1933, dans l'exploitation familiale. C'est mon grand-père qui a commencé cette fabrication, mes parents et puis moi. Donc on fabrique ce fromage avec passion, puisque j'ai toujours tendance à dire que c'est un fromage passion, plus qu'autre chose, sachant qu'il demande beaucoup, 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 beaucoup de soins, de travail, et c'est 7 jours sur 7.
7 jours sur 7, dites-nous un mot de justement du processus de fabrication.
Eh bien, la particularité qu'on maintient, puisqu'on reste dans la tradition, c'est de fabriquer avec le lait aussitôt après la traite, avec la à température de l'animal. Donc, on fait un embrasurage qui permet la coagulation du lait. Et une heure après, on passe à la fabrication. Donc, on fait une séparation de la partie solide et de la partie liquide pour mettre en moule le caillé, qui est la partie solide, et donner la forme au fromage. Après, c'est un processus de retournement, de salage et de mise en cave, puisqu'on bénéficie d'une cave naturelle, puisque l'atelier est toujours dans la tradition de la maison familiale. Donc, on bénéficie des caves qui sont sous cette maison pour affiner,
pour affiner les fromages. Combien de temps en cave? Alors, pour le Pont-l'Évêque?
Donc, ils sont 10 jours en cave, 8 jours en salle de dégouttage. Et la commercialisation ne démarre qu'à partir de 18 jours.
À partir de 18 jours. Il y a du savoir-faire dans cette famille. Depuis 1933, Jérôme Spruit, on dit que vous êtes le gardien du Pont-l'Évêque. Je lisais ça dans différents articles.
Bah, de toute façon, j'essaye, puisque je maintiens une authenticité. Je veux être le garant de cette authenticité. Donc pour ça, eh bien, on travaille avec un troupeau uniquement normande.
C'est vous qui produisez vous-même le lait. Ça commence par la qualité du lait, la qualité du fromage.
Donc pour avoir un bon fromage, il faut du bon lait. Donc il y a tout l'aspect sanitaire, mais il y a aussi l'aspect race et l'aspect alimentation. Donc au niveau de la race, on est avec la race locale, la Normande. Mmh. Donc la particularité qu'on a aussi, c'est qu'on n'a jamais acheté de femelle à l'extérieur, toujours en auto-renouvellement, afin de garantir une qualité sanitaire irréprochable. Puisque l'enjeu du lait cru, c'est le côté sanitaire. Hein. Il faut toujours être au top. Et c'est quand même quelque chose de durable et de complexe. Sachant que maintenant, on cherche partout les petites bêtes. Quoi.
Le Pont-l'Évêque, donc, au lait cru, c'est une appellation d'origine protégée. Benoît Charbonneau, on peut boire du cidre avec le fromage?
Bien sûr, c'est même très conseillé.
C'est même très conseillé ici en Normandie.
Le mariage du Pont-l'Évêque avec un bon cidre au Pays d'Auge, vous avez à la fois le côté lacté du fromage et l'amertume du cidre qui se marient très bien.
Cidre du Pays d'Auge, c'est aussi une appellation protégée?
Tout à fait, c'est une appellation d'origine protégée.
Alors vous êtes propriétaire de la ferme des Bruyères Carrées, c'est ça, je ne me trompe pas?
Oui.
À Moyeau, c'est tout près d'ici, vous oui. Le disiez. Alors vous êtes venu avec plusieurs bouteilles, je vois même un panier que vous nous avez déposé là. Qu'est-ce que vous nous avez apporté?
Alors je vous ai apporté pour découvrir et déguster donc des jus de pommes, puisqu'on est producteur de pommes au départ, et avec nos pommes on fait 6 productions sur la ferme. On fait du cidre, on fait du pommeau, c'est l'apéritif, on produit du calvados, on produit du jus de pommes, du vinaigre de cidre et des confitures. Et la particularité de la ferme, c'est hormis la production de pommes qui est faite sur la ferme, on vend 60% de notre production dans la boutique, dans la ferme.
Vous faites essentiellement de la vente directe?
Essentiellement de la vente directe. Donc on est en contact direct avec le consommateur qui nous permet de comprendre ce qu'il attend et de donner ses appréciations sur le produit.
Les pommes, il faut quelle variété pour faire du cidre?
On est sur un verger où nous avons une dizaine de variétés reconnues parce que dans le cahier des charges de l'appellation, on est obligé d'utiliser certaines variétés. Et c'est un mélange de trois sortes de variétés. Une variété douce, une variété acidulée et une variété amertumée.
D'accord. Après, il faut trouver les équilibres. C'est un peu comme faire du vin.
Avec
différents cépages.
Tout à fait. Donc ça, c'est un peu le secret de fabrication. Et la chance que l'on a, c'est de trouver un produit qui est équilibré, savoureux, désaltérant. Et quand le consommateur le déguste et qu'on voit qu'il l'apprécie, ben c'est une satisfaction pour le producteur.
Je m'arrête juste sur les confitures. Vous faites de la confiture à base de pommes, à base de cidre?
Oui.
Même, je crois.
Oui, tout à fait. On a 3 confitures. La gelée de pommes, tout d'abord. Oui. La confiture du cidre, où c'est du cidre qui est cuit.
D'accord.
Et la confiture de poire.
Et vous faites même de la moutarde.
Alors, de la moutarde au vinaigre de cidre. On s'est rendu compte que produire ces produits, c'est important. Mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir une gamme de produits. Parce que le consommateur, le client, il est toujours à la recherche d'un produit nouveau. Et ce qui est important, c'est de produire des produits authentiques que les gens ont plaisir à savourer quand ils reçoivent des amis ou seuls. Parce qu'à la fois, quand ils parlent du produit, ils parlent du producteur qui l'a fait. Et on ne vend pas qu'un produit, on vend un savoir-faire. Toute une énergie qu'on donne dans la production de notre produit. Et quand on sait que le produit il est bon, que le client l'apprécie, c'est une satisfaction d'abord personnelle et financière, parce que ça nous permet de vivre au terroir et vivre au pays.
Et c'est un sujet aussi, les filières de distribution. On parlera de la grande distribution tout à l'heure et justement de ces questions autour du revenu des agriculteurs. Vous faites ce choix de la vente directe parce qu'on en vit mieux aussi?
Ah ben complètement, vous avez une valeur ajoutée, puisque le produit est mieux vendu que si vous le vendez à un grossiste qui va vous pressurer pour l'achat de votre produit. Ce qui est important, c'est de maîtriser la production, de la production jusqu'à la commercialisation. Quand vous maîtrisez toutes les étapes, c'est vous qui avez la valeur ajoutée de votre produit. Vous ne le laissez pas à d'autres.
Jérôme Sprouit, vous avez fait le même choix. Vous les vendez où, vous, vos fromages ?
Alors, on vend à peu près 50% à l'extérieur sur la France, mais qu'à des fromagers indépendants haut de gamme.
D'accord.
Et autrement, c'est local, c'est que les petites boutiques, c'est-à-dire que moi, je ne travaille pas du tout avec les grandes surfaces.
Pas du tout avec les grandes surfaces. Ça va rejoindre ce que va nous dire Thibaut Dupont dans un instant, qui, lui, fait du maraîchage bio et qui a choisi aussi ses canaux de vente directe. On en parle dans quelques petites secondes sur Europe 1. Il est 6h22, nous sommes en direct en Normandie, à la ferme, jusqu'à 7h. À tout de suite. Il est 6h23 sur Europe 1, nous sommes toujours en direct dans le salon d'Isabelle de Radiguès avec plusieurs agriculteurs, plusieurs producteurs qui nous ont rejoints. Ils viennent tous du secteur et on avait à cœur ce matin à la fois de mettre en valeur le travail des agriculteurs et aussi leurs produits. Alors on a des effluves de Pont-l'Évêque là sur la table au petit déjeuner, des bouteilles de jus de pomme également sur la table. J'accueille Thibaut Dupont qui nous a rejoint aussi. Alors vous êtes maraîcher, pas très loin d'ici, vous êtes un jeune maraîcher. Alors vous avez un profil particulier parce que vous êtes ce qu'on appelle un néo-rural, on peut dire ça. Vous êtes installé récemment, vous venez de Paris à l'origine.
C'est ça, on est avec ma femme Elsa, on a créé une ferme il y a 4 ans et on n'est pas issu du milieu agricole. Voilà.
Qu'est-ce que vous cultivez ?
Eh ben, on cultive une centaine de variétés de légumes, aucune variété hybride, que des variétés anciennes. Et puis là, on se diversifie parce qu'on a planté 200 fruitiers et à partir de mi-mars, on accueille 50 poules pondeuses.
Et vous avez fait le choix du bio. On en parlait tout à l'heure. On disait, Fanny Agostini nous disait même que c'est sacerdotal de choisir le bio, c'est très difficile. Vous avez connu aussi des difficultés pour mettre tout ça en place ?
Non, pas vraiment. Je pense que c'est sacerdotal. Aujourd'hui, quand on s'installe, c'est un peu une évidence. Par contre, quand on est dans un système qui n'est pas bio, c'est là où c'est plus compliqué quand on a des habitudes ou des pratiques de changer. Mmh. Mais quand on s'installe aujourd'hui, je pense que la majorité des gens qui s'installent, et notamment les néo-ruraux qui ne viennent pas du milieu agricole, s'installent en bio. Quoi. Mmh.
Vous êtes installé en bio avec des pratiques très précises. On parle de permaculture, de maraîchage vivant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour qu'on comprenne bien ce que ça implique ?
Mais nous, ce qu'on fait, on appelle ça du maraîchage sur sol vivant. On est tout un collectif de paysans un peu chercheurs qui mettons en lien nos façons de faire pour progresser ensemble. Et en gros, il y a deux règles de base. On ne travaille jamais le sol. Donc, il n'y a aucun outil mécanisé qui pénètre le sol pour le retourner ou quoi que ce soit. Et le sol est toujours couvert avec de la matière organique. Donc, de la paille, du fumier ou du broyat, du compost, mais toujours couvert, jamais nu.
Ça veut dire que vous allez plus loin que ce que le bio vous imposerait de faire ?
Ah non, on va plus loin que le bio. Ouais, bien sûr, on va plus loin que les règles bio.
Ça veut dire qu'il y a des failles aussi dans le bio ?
Oui, bien sûr. Bah, on a un cahier des charges bio qui est sans cesse dégradé par notamment les lobbies des industriels à Bruxelles qui expliquent que ce n'est pas possible sans tel produit, il faut une dérogation, etc. Et on a un label qui est dégradé. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui sont militants en bio aujourd'hui se posent la question d'un nouveau label ou de comment se protéger face à cette détérioration. Ouais.
Parce que vous ne faites que des produits de saison, du coup, vous ne chauffez pas vos serres ?
Non. Déjà parce que c'est interdit, en plus parce que ça n'aurait pas de sens sur la qualité des légumes. Mais ouais, et en plus de ça, on fait que des variétés anciennes, aucune variété hybride.
Et on parlait des modes de distribution. Vous avez, vous aussi, choisi de favoriser la vente directe.
Ouais, nous, on a créé une AMAP. Donc, c'est une association où les gens viennent chercher des paniers chaque semaine. Et puis, on fait de la vente le samedi à la ferme. On fait un petit marché à la ferme où on vend d'ailleurs aussi les produits de Benoît. Et on vend un petit peu à deux biocopes au niveau local et deux restos.
Vous leur vendez en direct à ces biocopes qui sont...
Oui, on traite directement avec eux et on bosse avec ce réseau-là parce que c'est un réseau qui est quand même militant et qui garantit des prix qui nous permettent de bien travailler. Quoi.
On va évoquer bien sûr le prix dans la demi-heure qui suit et vous resterez avec nous et on échangera notamment avec l'un des responsables de la grande distribution qui a mené pour le groupe Lidl ces négociations commerciales qui se sont achevées hier et dont on a beaucoup parlé puisque ça pose toutes sortes de questions sur les revenus des agriculteurs. Ça a été une année difficile pour vous trois, le confinement. Est-ce que ça a été des pertes de débouchés, des pertes de clients ?
Donc pour ce qui est ce qui concerne le Pont-l'Évêque, évidemment, le premier confinement a été catastrophique, puisqu'il a fallu détruire des fromages.
Ah, il a fallu détruire des fromages.
Il a fallu détruire des fromages. Et puis le deuxième, eh bien, c'est très dur, parce que les fromagers sont ouverts, mais ils travaillent très peu. Et a priori, ne se chargent pas en fromage à pâte molle, excepté le camembert. Donc, parce que ce sont des fromages qui ont une durée assez courte. Et donc, s'il n'est pas vendu, pour eux, il est perdu aussi. Donc, voilà, on s'arrange. On continue à fabriquer comme si de rien n'était. Mais voilà, la seule solution, c'est de détruire si ce n'est pas vendu.
C'est de détruire si ça n'est pas vendu. Benoît Charbonneau, vous aussi, des pertes de débouchés sur vos bouteilles?
Oh, c'est différent que le fromage, puisque le cidre et le jus de pomme se conservent un peu plus longtemps. Ouais. On a perdu les restaurants et les crêperies, ça c'est indéniable. Mais on s'est repositionné avec des nouveaux créneaux de distribution qui sont les ventes à la ferme. Et c'était l'occasion de rencontrer Thibault. Et c'est vrai qu'on se rend compte, on a eu un très bel été parce que les touristes étaient là. Et ils ne sont pas partis à l'étranger, ils ont consommé français. Et on s'est rendu compte aussi que dès qu'il y a des vacances, les gens viennent dans nos gîtes, viennent vraiment découvrir le terroir. Et il y a une envie, une frénésie de bien manger, de bien consommer. On se rattrape sur le bien manger.
Et il y a cette question de la transmission. Vous avez vous-même des gîtes. Isabelle de Radigas, qui nous accueille ici, a également des gîtes et accueille et fait visiter son exploitation. Il faut venir. On est à quoi? 2h, 2h30 de Paris. Il y a des magnifiques produits. Merci à vous. On va goûter tout ça, évidemment. On va retourner à Paris pour, évidemment, la météo de ce lundi matin. Il est 6h29. Laurent Cabrol, c'est à vous.
J'ai pas consulté ma vache parce qu'en général, les vaches, vous savez, on a dit qu'elle pouvait prévoir le temps, mais non, c'est pas vrai. C'est vraiment toujours faux. En revanche, la vache vous donne, et c'est une boussole, elle vous donne le nord. Quand elles paissent ou quand elles sont couchées, elles ont la tête tournée vers le nord, à moins qu'un train passe. Si un train passe, hop, elles tournent la tête tout ensemble. Bon, écoutez, il n'y a pas de vent, il y a très peu. Hein, il doit y avoir un peu de petit vent d'est, sud-est dans la journée chez vous à Pont-l'Évêque. Mais en France, ce sera ça. Ce sera un vent d'est, sud-est, de très léger et du soleil pour nous tous. Parce que c'est une belle journée. Ne gâchons pas notre plaisir. Hein, ne faisons pas la fine bouche. Surtout si on a un bon petit Pont-l'Évêque à côté. Vous avez là devant vous un soleil omniprésent avec quelques passages nuageux sur le Piémont pyrénéen et sur le Languedoc-Roussillon. Mais c'est tout. Les températures ce matin sont froides, moins 2 à Mulhouse, 0 à Orléans, 2 à Rennes et Lyon, 3 à Clermont-Ferrand, 4 à Lille, 5 à Paris, 8 à Bayonne, mais ça monte bien dans l'après-midi.
Merci à vous Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
Lundi 1er mars, nous sommes jusqu'à 7h depuis une ferme en Normandie. Tout de suite un nouveau journal, bonjour François Geffrier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
6h30 sur Europe.
Le projet de loi qu'on a aujourd'hui a été filtré pour donner ce résultat très tiède.
Ce qui me désole, c'est que le gouvernement ne soit pas allé plus loin que ce qu'il a fait.
Ils sont déçus, les citoyens de la Convention climat. D'ailleurs, ils le disent avec des notes 2,5/10 en moyenne pour les mesures de la loi issues de leur travail. Pression maximale sur les prix. La grande distribution veut vendre toujours moins cher. Les agriculteurs en subissent les conséquences. Et puis, où se trouve Alexeï Navalny? Mystère autour du lieu de détention de l'opposant à Vladimir Poutine.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Cette fois, la Convention pour le climat en a définitivement terminé avec ses réunions à 150 citoyens. L'exercice était inédit et après un exercice, on corrige les copies avec des notes. C'est ce que les citoyens réunis ce week-end en visioconférence ont fait. Des appréciations sur le projet de loi inspiré de leurs propositions. Et ça ne monte pas bien haut, Caroline Baudry.
La meilleure des notes, 6,1/10 pour la réforme de l'article 1er de la Constitution afin d'y introduire la lutte contre le réchauffement climatique. Pour d'autres thématiques comme se loger, consommer ou se déplacer, les notes aussi autour de 3,5. Mais la moyenne générale attribuée au gouvernement n'est que de 2,5/10 à cause de nombreux zéros donnés par ses citoyens. Une note sévère qui traduit le malaise palpable. Emmanuel Macron s'était engagé à transmettre sans filtre 146 propositions sur le climat issues de cette consultation démocratique inédite. Sans filtre, un terme qu'avaient retenu les conventionnaires. Ils dénoncent aujourd'hui un manque d'ambition, une loi climat peu convaincante. Le gouvernement rappelle que près de la moitié des mesures sont mises en œuvre, même revues à la baisse. Un ministre concerné l'assure, ce n'est pas un échec. C'est cette convention citoyenne qui a poussé les décideurs à aller aussi loin.
Eux aussi vont retrouver leurs notes. Les élèves de la zone C rentrent de vacances. Aujourd'hui, certains vont découvrir les dépistages Covid par tests salivaires qui ont commencé la semaine dernière dans la zone A.
À Dunkerque, là c'est la deuxième semaine de vacances qui démarre dans le contexte de forte circulation du virus. L'agglomération a vécu son troisième confinement, c'est uniquement le week-end. Il y a eu 70 verbalisations pour non-respect des règles, comme la limite d'une heure et de 5 km pour se promener. Une contrainte qui énerve au plus haut point cette Dunkerquoise, Christine.
Je le vis, on le vit très mal. Surtout moi, parce que d'être enfermé comme ça avec les enfants, surtout quand on a des petits-enfants, c'est très désagréable. Maintenant, je comprends le Covid, mais bon. Mon week-end, je viens de lever ma petite fille et puis on arrive ici maintenant. On a notre attestation dans la poche et on est toujours comme ça à regarder la montre jusqu'à l'heure. Hein. Ras-le-bol! C'est trop, ça fait un an que ça dure, c'est trop.
Ras-le-bol, nous dit Christine, une Dunkerquoise qui répondait à Maximilien Carlier. Pas de salon de l'agriculture cette année, alors Europe 1 s'installe dans le salon des agriculteurs, chez eux, au sens propre. D'ailleurs, depuis 5h ce matin, Sébastien Krebs est en direct de la ferme de Forges dans le Calvados. On va vous retrouver, Sébastien Krebs, dans 3 minutes, pour parler de cette question du revenu des paysans. Une échéance, hier soir, 23h59, la fin des négociations commerciales. Bonjour Emmanuel Dutheil.
Bonjour.
Ces négociations, c'est chaque année, c'est crucial, mais concrètement, comment ça se passe ?
Eh bien, c'est très simple, hein. Le prix de votre brique de lait, de votre boisson gazeuse préférée ou de votre paquet de lessive vient d'être arrêté pour l'année à venir. Ces négociations entre la grande distribution et les fournisseurs fixent tout simplement les prix de tout ce que l'on va acheter dans les supermarchés, à l'exception des marques des distributeurs. Les producteurs, eux, ne sont pas autour de la table, mais ces négociations concernent aussi bien la petite PME de yaourt de la Drôme que le géant américain des glaces. Et cette année, la grande distribution a mis une grosse pression pour faire baisser les prix, ou en tout cas limiter au maximum les hausses, comme le reconnaît Michel Biraud, l'un des patrons de Lidl.
Je suis le premier à le dire, il faut défendre le pouvoir d'achat du Français. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut encore une fois plus taper sur les éleveurs. Donc si l'industriel montre la transparence, rogne un peu sur ses marges et que le distributeur rogne un peu sur ses marges, moi je dis, vendre pas cher ne veut pas dire acheter pas cher.
Alors on l'entend, hein, tout le monde se renvoie la balle de la responsabilité. En effet, si des prix bas, c'est une bonne nouvelle pour le consommateur, il faut bien qu'un des acteurs paie cette guerre des prix. Et c'est souvent celui qui est au bout de la chaîne, c'est-à-dire le producteur qui paie les pots cassés.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Après 24 heures dans l'inconnu, on a retrouvé Alexeï Navalny. Les autorités pénitentiaires russes ont révélé la région où l'opposant à Vladimir Poutine devrait purger les 2 ans et demi de peine de prison, Nicolas Tonev.
Oui, c'est à une centaine de kilomètres de Moscou seulement qu'Alexeï Navalny devrait purger sa peine. Alors c'est une chance pour lui, car il aurait pu se retrouver beaucoup plus loin que cela de sa famille et de ses soutiens. Alors cette colonie pénitentiaire numéro 2 de Pokrov, qui est pressentie, ne paie pas de mine, hein, avec ses bâtiments qui sont aussi gris que le paysage qui l'entoure. C'est une prison à régime normal, c'est-à-dire que les conditions de détention n'y sont pas renforcées spécialement. Elle n'accueille que des détenus condamnés à de la prison ferme pour la première fois. Et comme dans la plupart des camps en Russie, on y travaille. Alors les spécialités sur place, ce sont les métiers de cuisinier, boulanger, tourneur ou couturier, autant de métiers qui seront proposés au prisonnier Navalny dès que son arrivée sera confirmée.
Eh bien, merci beaucoup Nicolas Tonev pour ces toutes dernières précisions. Le sport avec en foot un bien triste Olympico, un partout entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais hier soir en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Côté rugby, les critiques continuent de pleuvoir sur la Fédération française après tous ces cas de Covid la semaine dernière dans le 15 de France, un cluster qui a causé le report du match contre l'Écosse au tournoi Destination. Alors encore un coup de gueule, hier c'était sur Europe 1, Florian Grill, membre du comité directeur de la Fédé.
Vous savez, les responsabilités, moi j'aime bien qu'elles partent d'en haut. Serge Chimon, Bernard Laporte, Serge Chimon c'est le Covid manager. On a 4 rassemblements des équipes de France au sens large. 4 rassemblements, 4 clusters. Je veux dire, il y a des clubs de top 14, de Pro D2, même de National, qui réussissent à jouer au rugby sans avoir comme ça une espèce de raz-de-marée de cas Covid. Donc, la responsabilité et les sanctions, c'est pas que pour monsieur et madame tout le monde. Ça doit aussi toucher les personnes en haut. Et donc, Bernard Laporte et Serge Chimon les premiers. Et ça serait pas illégitime qu'on demande au Covid manager, au terme d'une enquête indépendante, de démissionner.
Et hier soir, Bernard Laporte a confirmé sur France 3 que le sélectionneur de l'équipe de France, Fabien Galthié, était sorti de la bulle sanitaire du 15 de France, mais il lui conserve son soutien.
Merci à vous, François Geffrier, pour le journal. Il est 6h37.
Europe 1.
Et nous sommes toujours à la ferme depuis 5h ce matin chez Isabelle de Radiguez qui a la gentillesse de nous accueillir. On était dans votre étable tout à l'heure, Isabelle. On est maintenant dans votre salon pour échanger avec différents producteurs et agriculteurs du secteur qui nous ont rejoints. On va parler du revenu des agriculteurs dans un instant. Consommer français, consommer de qualité, mais à quel prix pour le consommateur et pour l'agriculteur en bout de chaîne? Le débat dans un instant avec aussi l'un des acteurs de la grande distribution, l'un des dirigeants de Lidl. À tout de suite sur Europe 1. Et c'est une opération que nous lançons ce matin et qui va durer tout au long de la semaine. Première émission en direct depuis 5 heures ce matin dans une exploitation agricole. Il y en aura d'autres, notamment dans la France Bouge et avec Laurent Mariotte dans la suite de la semaine. Nous sommes dans le salon d'Isabelle de Radiguez, ici dans le Calvados, dans le Pays d'Auge. Isabelle qui nous racontait avec son fils Nicolas tout à l'heure comment elle a choisi de cultiver ses céréales et d'élever ses bovins dans une agriculture qui est raisonnée. On a aussi parlé du bio. On va maintenant s'arrêter sur cette question du revenu des producteurs, des agriculteurs avec différents intervenants qui nous ont rejoints autour de la table. Thibaut Dupont qui est maraîcher bio dans le secteur et qui est toujours avec nous. Et Jérôme Gondouin, vous étiez avec nous tout à l'heure, rebonjour, un peu plus tôt dans l'étable d'Isabelle. Vous êtes éleveur laitier juste de l'autre côté du champ, vous n'êtes pas venu de très très loin. On sait que pour les éleveurs laitiers, la question des revenus, notamment dans cette période de négociation commerciale avec la grande distribution qui vient juste de s'achever, ces questions sont centrales. Quand on entend cette guerre des prix qui est relancée dans la grande distribution, ça a un impact, vous, très concret, direct, sur vos revenus à vous?
Ah bah oui, tout à fait, en ligne directe. Pour vous citer un exemple, hier, en préparant un petit peu pour l'émission, j'ai ressorti des classeurs de pédelé. Et bon, l'année dernière, j'étais payé 320 euros les 1000 litres, enfin 330 euros les 1000 litres sur ma pédelée. Là, cette année, au mois de janvier, je suis redescendu à 212. Et je me suis amusé à remonter quelques années. Et je me suis aperçu que ça fait plus de 10 ans, et ben, on est toujours autour des 310, 320 euros les 1000 litres. Mais en face, les charges ont considérablement monté. Donc nous, ben, on est obligé de s'adapter. Et on voit qu'on est toujours la variable d'ajustement face à tout le monde. Quoi.
Ouais. Votre lait, très concrètement, vous le vendez à qui?
Moi, je le vends à une laiterie, enfin, un industriel qui s'appelle Lactalis. Mon lait va pas très loin, il va à l'usine de Lisieux, là, ouais, ici, qui sert principalement, je crois, à fabriquer du yaourt à la grecque. Donc, un produit qui se vend relativement bien, je crois, dans les grandes surfaces. Et donc, voilà. Quoi. Mais...
Vous vendez à un intermédiaire qui ensuite vend à la grande distribution.
J'ai très peu d'intervention sur le prix et sur mon prix, ça, tout à fait.
Ça veut dire que vous ne maîtrisez pas vos revenus. Est-ce que, après cette période de négociation commerciale qui s'est achevée hier soir, est-ce que vos revenus pour l'année à venir sont sécurisés?
Bah, a priori, d'après ce qu'on peut entendre, c'est difficile. Alors le souci qu'on ne peut pas connaître non plus, parce que de toute façon, on ne connaît pas le prix. Je ne connais pas le prix où je vais être payé mon lait sur les 10-12 mois qui viennent. Je connais à peu près le prix où je vais être payé en février. Le prix où je vais toucher en mars, je ne le connais pas encore.
Le prix change chaque mois. Malgré ces négociations, ce n'est pas un prix qui est arrêté pour l'année pour vous. Mais justement, vous allez pouvoir échanger avec l'un des acteurs impliqués dans ces négociations de la grande distribution qui est avec nous en direct. Bonjour, Michel Biraud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur exécutif des achats pour le groupe Lidl. On entend cette guerre des prix qui est revenue. Qu'est-ce que vous dites à Jérôme Gondouin qui nous explique cette grande incertitude sur ses revenus?
Bah, il a tout à fait raison. C'est vrai qu'on vit des périodes très très compliquées au niveau de l'agriculture. Ils vivent des moments compliqués, mais le problème, c'est que ça fait des années et des décennies que ça dure. Donc tout le monde a eu beaucoup d'espoir quand la loi alimentation issue des états généraux de l'alimentation a vu le jour début janvier 2019. Et pendant deux ans, Egalim, exactement. Et pendant deux ans, ils attendaient. Et force est de constater que, bah, il vient de le dire, l'éleveur, que 2020, finalement, il a touché moins que 2019. Ce qui est quand même dramatique, alors que chez nous, par exemple, ça fait quand même trois ans consécutifs qu'on met de l'argent sur la table, notamment pour le lait. Cette année, pour le collecteur qui collecte le monsieur, on est passé à 370 euros du 1000 litres prix de base 38-32. Donc c'est pas le prix toute prime, c'est très important de le préciser. L'année dernière, on était à 365. On augmente chaque année et pourtant le prix baisse. Donc bien évidemment,
Que vous mettez en cause les intermédiaires. On citait les géants comme Lactalis qui sont les intermédiaires. C'est eux qui font le plus de marge dans l'histoire.
Il y a plusieurs choses. Alors, bien évidemment, les industriels ne jouent pas forcément la totale transparence, qui est vraiment problématique. Et la loi Egalim, sans transparence, ne servira pas à grand-chose. Je l'ai dit il y a 2 ans, j'ai pas eu tort, et je le redis aujourd'hui. Donc, le problème, c'est qu'on va vous argumenter qu'il y a le mix produit, qu'il y a l'export. Et malgré que nous, on paye sur 225 millions de litres, c'est notre exemple chez Lidl, pour cet industriel, à hauteur de 370, ils vont expliquer que oui, mais c'est noyé dans le mix produit et avec les 40 ou 50% à l'export. Donc c'est très très complexe et au final, vous avez raison, la variable d'ajustement reste l'éleveur. Donc Egalim, après il y a un
Michel
deuxième
Biro,
problème.
Vous prenez la défense, on vous entend, vous prenez la défense des éleveurs et vous faites valoir que vous êtes un bon élève parce que vous avez justement mis de l'argent et augmenté les prix ces dernières années. Est-ce que vous êtes prêt, vous, à faire la transparence totale sur les marges? Est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce qu'il faut aller vers une transparence totale des marges à tous les échelons?
Oui, il faut une transparence totale. Je vous le répète, la loi Egalim, sans transparence, ne servira à rien parce qu'elle est basée sur la bonne volonté. Il y a une chose qu'il faudrait inscrire à la loi. Moi, je pense de toute façon qu'il faut légiférer parce que sans loi et sans contrainte et sans sanction, ça ne fonctionnera pas. Déjà, il y a un problème. Il faut savoir que 80% de l'alimentaire vendu chez les distributeurs, ce sont des marques nationales. Nous, par exemple, je ne fais pas de lait Candia, je ne fais pas de lait Lactel. Je ne fais que de la marque de distributeur. La négociation des marques nationales, les 80% dont je vous parle, est très complexe et est gérée et régie par une loi qui s'appelle la loi de modernisation de l'économie. Elle est antinomique avec la loi Egalim. Donc les deux ne peuvent pas fonctionner. Donc soit il faut dépoussiérer d'urgence la loi de modernisation de l'économie, soit il faut les rassembler pour en faire une grande et belle loi qui enfin demande de la transparence et rémunère correctement les éleveurs. Parce que
je voudrais que Jérôme Gondin puisse également rebondir. On a quand même le sentiment que tout le monde se renvoie la balle.
C'est exactement ce que j'allais dire. Oui, effectivement, nous, on nous dit, le transformateur nous dit, moi, je peux pas vous payer parce que la grande distribution ne veut pas jouer le jeu. La grande distribution dit, si, nous, on est prêt à jouer le jeu, c'est le transformateur qui veut pas vous rémunérer. Et en fait, on est toujours là, quoi. C'est toujours le même problème.
Thibaut Dupont, vous êtes donc maraîcher bio. On le disait, vous vendez à la ferme, vous vendez en direct à des supermarchés Biocoop. Vous avez fait le choix de ne pas vendre à travers les circuits de la grande distribution. Pour quelle raison?
Déjà parce que nous on est dans un modèle où on a une production qui est beaucoup plus petite et qu'on peut vendre en direct, ce qui n'est pas le cas je pense, donc je ne sais pas si on peut comparer, mais quand on a le choix, non, on vend en direct pour plusieurs raisons. Il y a la raison financière, il y a la raison aussi de connaître les gens qui viennent acheter les produits, et ça crée un lien qui est vraiment formidable, quoi. Nous on connaît les gens qui mangent tous nos légumes
il y a une demande du consommateur aussi vers ce type de modèle.
C'est ce que j'allais dire. Le problème des prix en grande surface, etc., c'est aussi les consommateurs, quoi. Les gens veulent, quand on regarde les statistiques, veulent des produits bio et sont contre les pesticides à 90%, mais ils n'achètent pas tous des produits sans pesticides. Donc après, les gens qui veulent sortir des pesticides sont obligés de produire avec pour produire des produits à prix bas pour les grandes surfaces. Et la clé, elle vient aussi des consommateurs, quoi.
C'est à nous, peut-être Isabelle de Radiguez peut rajouter un mot. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle? Il y a cette responsabilité aussi du consommateur. On n'est pas assez éduqué, on veut tout et son contraire.
Oui, je crois. Je crois que le consommateur veut vraiment être très exigeant, mais n'est peut-être pas prêt à mettre le prix. J'entends souvent des gens dire j'ai pas les moyens. On a fait tout un pataquès quand le blé a augmenté de combien de centimes, je ne sais plus. Oh, le pain va augmenter, ça va être affreux. Enfin, quand vous voyez les files d'attente pour un nouvel iPhone ou des trucs comme ça, là on y va, là on a tous les moyens. Non, l'alimentaire, c'est la première chose.
Et c'est parfois importante. Quelques centimes de plus. On n'est pas sur des grandes différences de prix.
Et puis, déjà, ne pas gaspiller, déjà. Ouais. Ça, on fait de grosses économies si on ne gaspillait pas.
Michel Biro, les agriculteurs ont tendance à essayer de vendre en direct. Les consommateurs se dirigent aussi vers ça. Et en supermarché, on comprend que vous essayez de sauver les prix les plus bas possibles. Mais ça semble un peu l'équation impossible que les agriculteurs soient mieux rémunérés en bout de chaîne.
Alors, je ne suis pas d'accord avec ce propos parce que Vendre pas cher, c'est vrai que le consommateur a été malmené, en tout cas son pouvoir d'achat avec la crise. Donc c'est vrai que, madame le disait, ils sont pas forcément prêts à mettre beaucoup d'argent pour acheter mieux ou pour en tout cas mieux rémunérer le monde agricole. Mais on parle de quelques centimes. On parle de quelques centimes. Sur le lait, par exemple, c'est 4 euros pour une famille sur toute l'année. 4 euros et l'éleveur sera content. Donc on parle de rien du tout. Donc je ne suis pas d'accord, on peut concilier les deux. Je pense que vendre pas cher ne veut pas dire acheter pas cher. Si l'industriel rogne un tout petit peu sur sa marge et que le distributeur en fait autant, l'éleveur sera correctement rémunéré. Et la solution pour moi...
Les clients sont prêts à payer un peu plus cher ?
Mais on parle de 2 centimes, on parle de rien du tout. Hein. La solution, c'est les tripartites. Les tripartites, il faut asseoir les éleveurs autour de la table. Il faut que les éleveurs mettent sur la table leurs coûts de production et qu'ils soient pris en compte. C'est ce qu'on fait. Alors certes, c'est aujourd'hui que 20-25% du lait qui est chez nous en tripartite. Ça veut dire que l'éleveur dit, moi, en dessous de 37 centimes prix de base, je ne peux pas vivre. Eh ben, on s'engage à lui payer 37 centimes. Faut-il encore que les industriels en France s'engage dans cette démarche de tripartite. J'ai un exemple dans le nord de la France où j'ai dû aller faire cette tripartite avec un industriel belge parce que personne ne souhaitait le faire en France. Donc il y a aussi une réalité, et c'est pour ça que je pense qu'il faut légiférer et qu'il faut inscrire certaines choses à la loi. Pourquoi pas peut-être ces contrats tripartites où il y a une totale transparence et confiance.
Et mettre autour de la table les producteurs et les éleveurs pour qu'ils puissent faire valoir leurs coûts de production. Et Jérôme Gondouin nous disait qu'ils avaient augmenté alors même que ces prix de rémunération avaient baissé. Merci à tous. Merci Michel Biraud d'avoir été en direct et d'avoir accepté d'échanger avec nos agriculteurs ce matin. Il est 6h10, on va se retrouver dans quelques secondes et on va aller voir ailleurs, on va prendre un peu de hauteur et notre revue de presse internationale sera consacrée aux problématiques agricoles qui se posent ailleurs sur la planète. A tout de suite sur Europe 1. Il est 6h52 sur Europe 1. Europe 1 s'est installé dans le salon des agriculteurs. Nous sommes ensemble ici en Normandie, dans le Calvados, chez Isabelle de Radiguez depuis 5h ce matin. Et après ces débats passionnants avec les différents agriculteurs qui sont venus nous rejoindre ici, on va prendre un peu de hauteur et aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est notre revue de presse internationale qui est dédiée aujourd'hui au monde agricole et aux problématiques qui se posent sur la planète. On va commencer au Brésil avec vous, Marino Dacher. Bonjour.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui, chez vous, préoccupe les agriculteurs en ce moment ?
Chez nous, ce qui préoccupe, c'est la position de l'Europe sur les importations des produits brésiliens liés à la déforestation. La France est l'opposant le plus ferme à l'actuelle version de l'accord de libre-échange avec le Mercosur, affirme le Diário do Pernambuco. Parmi les 4 pays du Mercosur, Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay, c'est la politique environnementale brésilienne en faveur de l'agronégoce qui est pointée du doigt, précise le quotidien. Et surtout, l'augmentation de la déforestation sous la présidence de Jair Bolsonaro, ajoute la Folha de São Paulo. En 2019, les négociations ont abouti à ce texte qui est maintenant en phase de révision juridique, un processus qui pourrait durer encore 1 ou 2 années, autant dire après 2022, après les élections françaises, prévoit la Folia.
Marino Dacher depuis le Brésil pour Europe 1. Nous allons en Inde à présent. Bonjour Combastin.
Bonjour Sébastien.
Et là-bas, c'est la mobilisation des agriculteurs qui fait la une.
Bien ici, voilà 6 mois déjà que la colère des fermiers monte contre la libéralisation de l'agriculture, constate The Tribune. Et malgré les violences lors de la fête nationale, malgré la répression, rien ne semble pouvoir briser leur siège de la capitale New Delhi. De quoi parle-t-on ? Récapitule le Time of India, de nouvelles lois qui permettent aux agriculteurs de vendre leurs récoltes aux grandes firmes sans passer par les marchés publics au prix régulé, moins d'intermédiaires, plus de bénéfices. Sauf que les agriculteurs ne croient pas à ces promesses. Leur crainte, expose The Hindu, c'est que les multinationales dictent leurs prix aux petits fermiers, puis s'emparent de leurs terres. Ces peurs sont exacerbées par le fait que les lois diminuent les recours juridiques face au marché. Que pèse un paysan avec un demi-hectare face aux avocats d'une firme, interroge le Grand Quotidien.
Combastin, en Inde, pour Europe 1, nous allons terminer cette revue de presse en Espagne. Avec vous, Henri Laguérie, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Quels sont les enjeux du moment en Espagne pour l'agriculture ?
Eh bien, ce qui préoccupe les éleveurs en ce moment, c'est la décision des autorités espagnoles de mettre fin à la chasse aux loups. Sous la pression des organisations écologistes, l'Espagne vient d'inclure l'animal dans la liste des espèces protégées, explique El País. Il ne sera plus possible de le capturer ou de l'abattre. L'Espagne compte entre 2000 et 2500 loups. La plupart vivent dans le nord du pays. Vendredi, des éleveurs ont manifesté bruyamment à Oviedo, dans les Asturies, rapporte El Comercio. 12 000 têtes de bétail sont mortes l'année dernière à la suite d'attaques de loups. Ils estiment que l'interdiction de la chasse met en péril la sécurité de leur cheptel. La décision a créé une polémique au sein même du gouvernement, nous apprend El Mundo. La ministre de la Transition écologique, qui a soutenu cette décision, a rencontré l'opposition du ministre de l'Agriculture. Contre cette décision, les éleveurs entendent présenter un recours devant la justice.
Henri de la Guérie en Espagne pour Europe 1, et on le voit, hein, des sujets de préoccupation qui peuvent être en commun avec ce que nous connaissons en France. Votre revue de presse internationale, il est 7h05.
C'était la revue de presse internationale avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Je vais remercier Isabelle de Radigas qui nous a accueillis très gentiment avec toute l'équipe d'Europe 1 dans votre gîte, dans votre étable tout à l'heure en direct. Merci beaucoup. Isabelle, qu'est-ce que vous retenez de tous ces échanges ce matin ?
Moi, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, moi personnellement, Nicolas, et puis je pense les personnes autour de nous. On aurait pu être encore plus nombreux. Je pense que vous êtes très, très, très utile. Et surtout, j'aime beaucoup votre bienveillance face au monde agricole. Ça fait très plaisir d'entendre des journalistes qui écoutent. Qui aime apprendre et qui ne juge pas forcément.
Merci à vous. Je pense que nos auditeurs ont la même bienveillance que moi, je pense, envers votre travail et tous les produits que vous nous avez apportés ce matin. Je les invite d'ailleurs, nos auditeurs, à aller sur europe1.fr pour poursuivre. Vous pourrez lire plusieurs reportages signés par Margot Lanuzel qui vous a suivi, Isabelle, sur votre exploitation pendant une journée, qui raconte votre quotidien. Et puis vous trouverez aussi d'autres informations sur les méthodes de production. Merci à vous. Le 7-9 de Mathieu Béliard. Dans quelques secondes, à tout de suite.